Et maintenant, j'aimerais appeler vers ici devant Frédéric Guern. Soyez le bienvenu. Frédéric est le directeur de l'ONG Digger, qu'il a créée il y a une quinzaine d'années. Voilà. Alors, je crois que je le laisserai se présenter. Son message prendra plutôt la forme d'un témoignage et non d'un message biblique. Et vous comprendrez pourquoi. Alors, je lui passe la parole en le remerciant d'être venu du Jura vers nous.
De Houston. C'est bon, voilà, je vais arrêter, je vais baisser le volume ici, c'est bon. C'est moi, je voudrais vous dire merci. Merci de me permettre d'être ici ce matin. Je dis merci parce que on me demande de temps en temps de venir donner mon témoignage et c'est quelque chose que je fais une, deux fois par année. Je me suis fixé un peu ce quota, j'arrive pas beaucoup plus. Et chaque fois que j'ai une date où je dois venir présenter un témoignage, je me dis, oh non, non, qu'est-ce qui m'attend? Pas parce que j'ai peur d'où je vais, parce que je sais que chaque fois que je vais donner mon témoignage quelque part, on passe par une période épouvantable. Et ça marche, c'est le cas aujourd'hui. Donc, pas parce que je suis là, hein, pas du tout justement. Mais en fait, je voulais vous dire merci, parce que je crois que Dieu, quand il me donne la possibilité de venir partager à des gens que je ne connais pas, en fait, il veut me renouveler, il me donne quelque chose. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a passé un temps de louange et je crois que vous avez été inspirés parce que tous les chants m'ont fait un bien incroyable. Ils m'ont parlé. On a prié tout à l'heure et puis je me suis dit que j'allais commencer avec ça. Et dans le petit groupe, il y a un monsieur qui a dit, il a parlé, puis il a dit, Jésus, ben voilà, on t'offre nos deux pains et nos cinq poissons. Et bien, ça pourrait être le thème de ce que je vais vous partager aujourd'hui. Deux pains et cinq poissons. Je crois que ça résume parfaitement 17 ans de travail dans, ben voilà, 17 ans du projet dans lequel je suis engagé avec ma famille et une vingtaine d'employés maintenant. Deux pains, cinq poissons, ça veut dire rien. Ça veut dire ce que j'avais, ben voilà, c'est tout ce que j'ai pu mettre à disposition, puis Dieu fait le reste. C'est exactement la chose. Alors, comme notre sœur a dit, hein, je vais pas faire une étude biblique, je serais bien incapable de le faire. Mais ben voilà, l'idée, c'est de vous partager un peu quelque chose. C'est quelque chose sur le cœur, comme ça, crac, boum, ça ne sera pas un beau speech, ce n'est pas mon métier. Moi, je suis ingénieur de formation, mais je vais essayer de vous partager un petit peu un vécu. Voilà, au moins partager un petit moment de vécu ensemble. Alors, pour ça, ben, ce que j'aime bien faire, c'est, pour éviter de me perdre, parce qu'il y a toujours un aspect technique dans le travail que je fais, et moi, comme ingénieur, si je pars dans la technique, je ne m'arrête plus. Donc là, vous êtes foutus, à midi, vous n'avez pas mangé, je serai en train de vous parler de chaque écrou de notre machine. Alors, j'ai pris une petite vidéo avec moi, elle dure 3 minutes. Puis comme ça, pendant 3 minutes, je me concentre sur la technique, je présente ce qu'on fait, puis au bout de 3 minutes, je sais que je dois m'arrêter. Puis là, je vais partir sur autre chose. Voilà. Alors, on peut lancer la vidéo. Alors, vous verrez, c'est un peu spécial. Voilà. C'est une vidéo qui présente notre machine et un aspect un peu spécial de ce qu'on fait. Voilà. Donc, en fait, ce que nous fabriquons dans le Jura bernois, à Tavannes, c'est la machine qu'on a vue passer tout à l'heure, qui travaille dans le monde humanitaire, en Afrique, dans les Balkans. Voilà, c'est un engin de 12 tonnes que nous fabriquons. Et c'est un engin qui a une fonction bien spéciale. En fait, il est fait pour sauver des vies. Il est fait pour pour épargner des vies dans le monde humanitaire. Donc voilà, notre façon de travailler, c'est ça. C'est un peu spécial quand même, hein. C'est pas tous les jours. Donc en fait, la machine que nous fabriquons est un véhicule de 12 tonnes qui est blindé, parce qu'il va faire un travail qui est quand même assez éprouvant. En fait, elle est équipée d'un outil spécial à l'avant qui va broyer le sol jusqu'à une vingtaine de centimètres. Et en broyant le sol, en fait, on l'envoie faire ce travail dans les champs de mines, en Afrique, dans les Balkans principalement. Et le but, ben, c'est de broyer le sol et de détruire les mines qu'il va rencontrer dans les champs de mines. Les explosions que vous avez là sont quand même un peu inhabituel. Normalement, voilà, j'en ai pris une avec moi. Les mines avec lesquelles on travaille, c'est ça. Enfin, contre lesquelles on travaille, c'est ça. Là, les explosions que vous avez, ce sont des mines anti-chars. Donc, c'est des mines beaucoup plus grosses. On va jusqu'à 8 kg d'explosifs. Les vidéos, elles ont été prises pendant une certification, plusieurs certifications dans différents pays, où on a dû prouver en fait que notre machine était capable de résister à l'explosion de mines anti-tank aussi. Donc en fait, comme vous le voyez, on a un outil à l'avant de la machine. Cet outil fait à peu près une tonne. Il va tourner à 500 tours par minute, plusieurs tours par seconde. Et en fait, il va simplement creuser le sol, broyer le sol. Et puis quand il atteint une mine, ben voilà, ça explose. Là, il y a plein d'explosions parce que c'est un petit peu un clip de présentation. C'est plus commercial qu'autre chose. Voilà. Et donc en fait, l'opérateur n'est pas dans la machine, il est à distance. On a fait ça simplement pour que... c'est une question de sécurité, hein. Voilà, mais en fait, la machine survit très bien malgré tout. Donc, c'est un choix qui a été fait justement de ne pas mettre en danger les gens dans la machine. Certaines machines de déminage, il y a des pilotes hein, dedans. Je vous laisse imaginer, c'est assez sympa comme métier, mais voilà. Donc, en fait, ça, c'est ce que nous faisons maintenant. Donc, c'est le résultat, ce que vous voyez là. C'est la machine que vous avez vue, c'est la toute dernière génération, c'est la D250, c'est un véhicule de 250 chevaux, un bon petit moteur dedans. C'est grand comme un break, un petit peu plus grand qu'une voiture break. Ça pèse 12 tonnes parce que c'est blindé, c'est très très lourd, quoi. Et comme je vous disais, c'est piloté à distance. On a cette machine que vous avez sur la vidéo, c'est la numéro 12. On est entré en action déjà dans 13 pays, principalement en Afrique, dans les Balkans. Alors le contexte, c'est ça. Le contexte, c'est ces petites saletés. D'habitude, je dis un gros mot quand je les présente parce que je n'ai rien d'autre pour les décrire, mais là, je dis saletés. Je m'arrêterai là, d'accord ? C'est des mines antipersonnelles. La dernière fois que j'ai donné un exposé dans une église, je l'ai oublié. Donc, si vous trouvez une mine sur la chair, c'est moi, hein. Je laisse toujours des mines derrière moi. Je suis un peu tête en l'air, quoi. Donc, en fait, ces engins, juste pour le contexte, justement, l'idée, c'est quand même de vous placer un peu le contexte. Ces engins polluent à peu près 70 pays sur la planète. C'est des armes. C'est des armes qui sont notamment beaucoup utilisées dans les pays pauvres. Pourquoi ? Parce que ça coûte presque rien. Une mine comme celle-ci, ça c'est une petite mine française, elle va coûter 2-3 francs, pas beaucoup plus. On en a utilisé... Les premières mines ont été fabriquées pendant la guerre de sécession, donc au temps des tuniques bleues, imaginez. Pendant la Première Guerre mondiale, on a commencé d'en utiliser pas mal. Ensuite, Deuxième Guerre mondiale, grosse utilisation. Et puis malheureusement, dans les années 70, on a commencé d'en voir partout parce qu'en fait, on commençait de les fabriquer en série avec des prix qui chutaient. Et dans les années 70, il y a eu beaucoup de pays qui sont sortis de la décolonisation, beaucoup de pays pauvres, et il y a eu des luttes aussi au sein même du pays, des guerres civiles. Et on a utilisé les Kalachnikovs, les RPG-7, les machins contre anti-chars, très bon marché, et ces saletés. Les mines, parce qu'elles étaient justement très bon marché. Et voilà, résultat des courses, plus de 70 pays sont pollués par ces engins. Alors les mines, ben on le sait, donc je ne vais pas vous faire un exposé en long et en large là-dessus. Les mines, elles tuent par année à peu près entre 5 à 10 000 personnes. Donc ça, c'est les statistiques, on ne sait pas exactement, parce que certaines, voilà, il y a des gens qui meurent ou ils sont mutilés principalement par ces engins. On ne connaît pas exactement les chiffres. On sait que certains n'arrivent pas au poste sanitaire, par exemple. Donc, on estime 5 à 10 000 personnes. Malheureusement, ça serait rien si c'était que ça. Parce que 5 à 10 000 personnes, c'est rien par rapport à l'effet réel des mines. 5 à 10 000 personnes, c'est le sommet de l'iceberg. C'est juste la partie visible. Les mines, en fait, elles vont toucher des cibles. Elles vont avoir un impact sur des victimes sans avoir même eu besoin d'exploser. Par là, ce que je veux dire, imaginez, je prends quelques mines comme ça, répétez-le pas autour de vous parce que l'idée ne serait pas du tout bonne, et je vais sur la plage, ici, vers Lausanne, et petit malin, je mets quelques mines au bord du lac. On est en été, une personne marche sur la mine, boum, elle est blessée. Et on va se dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a quelqu'un, il y a un fou qui a placé une ou des mines au bord des lacs suisses. Eh bien, vous pouvez être sûr que pendant cet été-là, personne n'ira se baigner. Donc vous aurez toute la population suisse qui souhaitait aller prendre un bain au bord du lac, qui deviendra victime des mines. Parce qu'en fait, on va suspecter la présence de mines, on ne va pas savoir quoi faire. Et bien, c'est exactement ce qui se passe dans ces pays. Vous avez des mines qui sont posées, on ne sait pas où, et les gens ne peuvent plus vivre correctement. Alors, l'exemple que je donnais, c'est un exemple de loisir. Hein. Si on ne peut pas aller se baigner pendant une année le temps de déminer, on ne va pas en mourir. Mais on a déjà subi quelque chose. Mais imaginez si c'est vos champs qui sont pollués, si c'est des routes qui sont potentiellement minées, si c'est des voies d'accès à des puits d'eau qui sont potentiellement minées. Ben, c'est ce qui se passe dans ces pays. Et là, on appelle ces gens qui ne peuvent pas aller chercher de l'eau parce que le puits d'eau est pollué, qui vont peut-être devoir prendre de l'eau qui, elle, est une eau contaminée, par exemple, parce que le puits avec de l'eau de qualité n'est pas accessible. Ces gens qui ne peuvent pas exploiter leurs champs, en fait, ce sont des victimes, mais ce sont des victimes indirectes. On a des témoignages de gens en Angola qui sont morts de faim parce qu'en fait, ils ne pouvaient pas exploiter leurs champs. Ils ont préféré mourir, se laisser mourir, que de prendre le risque de marcher et de se faire amputer. Donc on ne se rend pas compte, mais en fait c'est quelque chose qui va polluer la vie, non pas seulement des 5 à 10 000 personnes qui vont marcher dessus, mais de millions de personnes. Et on ne connaît pas le chiffre. Alors sur le chiffre-là, on l'estime comme ça, mais on n'a pas de grands chiffres très précis. Donc les mines, c'est ça. Pardon. La réalité des mines, c'est ça. C'est une angoisse permanente dans plus de 70 pays sur la planète. Voilà. Alors, pourquoi je suis là? Moi, je vis avec mon épouse et nos deux enfants, Jonathan et Lydie, dans le Jura bernois, là où on fabrique les montres, le chocolat Camille Bloch, les ragusins, pour ceux qui ne savent pas. Quel est le rapport entre cette région et les mines antipersonnelles? Alors, le rapport, il a mis du temps. C'est un rapport qui est loin, mais qui a commencé il y a quelque chose comme, on va dire, allez, 30 ans. Un peu plus, même 35 ans. Ça a commencé quand j'étais enfant. Pas parce que je vivais dans une zone minée, hein, j'ai toujours vécu dans le Jura bernois, j'ai pas eu l'occasion à ce moment-là d'aller dans ces pays-là, mais le rapport, il est un peu différent. En fait, c'est là où mon témoignage commence. La problématique des mines, j'ai commencé à... Elle m'a montré le bout du nez quand j'avais à peine 10 ans. Ça veut dire que à cet âge, en fait, ma passion, moi je vous ai dit, hein, je suis ingénieur, et ma passion, ben, c'est la technique. Et quand j'étais enfant, c'était déjà le cas. Donc moi, je bricolais tout le temps. Et au grand dam de ma mère, ma passion, c'était les armes. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je fabriquais? Je fabriquais des fusils, je fabriquais des bombes, je fabriquais des grenades, tous les trucs que tous les enfants font tout le temps, quoi. Je faisais le trafic d'armes, hein, parce que je fabriquais des armes, et puis je les revendais pour me racheter ce qu'il me fallait. Donc voilà, c'est ce que je faisais en permanence. J'ai eu un accident très tôt, à l'âge de 6 ans, j'ai fait pas mal de trucs, mais c'était très scientifique. Donc ça, c'était vraiment ma passion. Et c'est vraiment le cas, je faisais pas ça comme ça, c'était tout le temps ça. L'école, j'ai absolument détesté. Je m'ennuyais, c'était épouvantable. Et... la seule chose qui m'intéressait, c'était mes bricolages. Alors ma mère, ça la rendait folle, parce que quand une fois vous avez eu votre fils qui a eu un accident, qui a perdu un œil, vous n'êtes plus trop motivé par le voir continuer à faire ce genre de choses. Elle essayait de m'encourager. Elle m'a une fois donné un livre avec des collections de timbres. Pas trop marché. Bref, elle essayait tout pour m'empêcher, mais bon, ça continuait, quoi. Elle passait l'aspirateur, ça explosait parce que je laissais traîner des choses. Ça, ça a commencé comme ça, quoi. Et voilà, vous grandissez, vous arrivez à l'âge de l'adolescence, et un adolescent qui a des armes plein sa chambre, c'est pas du tout une bonne chose, d'accord? Alors, comme je vous disais, moi, j'étais plutôt un esprit scientifique, je faisais pas tellement des trucs pour faire des bêtises comme ça, mais quand vous avez des armes, vous devez les tester. Et moi, il fallait que je les teste. Alors, un truc fantastique pour tester les armes, c'est les réverbères. Hein, parce que quand vous tirez, il s'éteint. Hop, vous avez pu régler le fusil. C'est parfait, la lunette, tac, pof, tout ça. Et voilà, j'ai fait pas mal de bêtises comme ça. Et ah oui, la petite chose que j'oublie de dire. Voilà, ça, c'est important aussi. Donc, je ne viens pas d'une famille, forcément, où les gens vont à l'église le dimanche. Mes parents sont protestants. On allait à l'église une, deux fois par année. Et moi, je détestais ça. D'accord ? Me parler de Dieu, je dis toujours la seule personne que j'ai frappée, bon maintenant je fais de la boxe, ça arrive un peu plus souvent que je frappe, mais ça c'est dans un autre contexte. Mais la seule personne que j'ai frappée de ma vie, c'était mon meilleur ami le jour où il a voulu me parler de Jésus. Et bam, j'y ai retourné une tourniole, parce que j'étais complètement opposé à ça. Je ne voulais pas entendre parler de la foi, je m'estimais trop intelligent pour ces bêtises.
Et voilà, j'ai vécu ma vie. Pour moi, ben voilà, j'étais capable de faire mes bricolages et c'était la seule chose qui m'intéressait. Et comme je vous disais, donc l'adolescence, elle vient, on fait des expériences très, très, très technologiques. Et puis un jour, j'apprends que ben, les quelques réverbères et puis les autres trucs, il y avait quand même pas mal de dégâts que j'avais fait, la police n'était pas très contente. Et un jour, c'était autour des 13 ans, je pense, quelque chose comme ça. Ben, j'ai appris qu'en fait, la police me recherchait. Enfin, elle cherchait l'auteur de ces dégâts. Et là, j'ai commencé à être pas très bien. En fait, je n'avais jamais réalisé que je faisais des bêtises. Hein. Les réverbères, de toute façon, ils les réparaient. On pétait le réverbère, ils le changeaient. Alors, il n'y avait pas de mal. Et là, tout à coup, pouf, il y a le déclic. Et je réalise en fait que... qui me recherchait, puis aussi les collègues que j'utilisais. Ah ouais, quand je dis utiliser, parce qu'en fait, c'était plutôt des... Quand je faisais un gilet pare-balles, je le mettais sur le collègue et je tirais dedans. Hein. C'était un peu... Voilà, bref, on était un peu mal. Et mes parents n'étaient encore pas au courant. Il y avait eu une annonce dans le journal, appel à témoins. Et là, ça a été une étape vraiment importante pour moi, parce que c'est rigolo, hein. Quand vous avez des problèmes, comment tout d'un coup on s'intéresse à Dieu? C'est dingue, hein? Moi, j'ai jamais eu autant de collègues dans les études qui me demandaient de prier que pendant les examens. C'était incroyable, quoi. Puis après, ils oublient, bon, voilà. Mais moi, j'étais exactement le même. Ça veut dire que tout à coup, j'avais des problèmes qui se présentaient. Et je savais que la police allait venir, hein? Ils n'allaient pas m'oublier, quoi. Et malgré le fait que je ne voulais pas croire en Dieu... Là, je me suis dit, il faut de l'aide, quoi. Et c'était un mercredi après-midi, je m'en souviens très très bien, j'étais assis à mon bureau qui était tout brûlé avec des traces de poudre partout, ça c'était vraiment rigolo. J'étais assis à mon bureau et j'ai dit, ben Dieu, je suis dans la M, j'ai dit le mot hein, cette fois-là, quoi. Et j'ai besoin de toi, je crois en toi. Un mercredi après-midi, je ne peux pas vous dire l'heure exacte, mes parents avaient essayé, hein, j'avais fait le caté, ça a été une catastrophe. Je connaissais mais quasiment rien. J'avais une Bible que j'avais reçue après le caté, c'est tout. Mais sinon, je connaissais rien. Mais ce jour-là, j'ai dit à Dieu, ben voilà, je crois en toi parce que je suis pas bien, j'ai besoin d'aide, quoi. Et c'est peut-être un peu parce que je suis ingénieur ou comme ça, mais si je fais un choix, d'habitude, je m'y tiens. Et cette fois-là, ben, ce choix-là, juste changer ma vie, quoi. Ça a été une étape comme ça dans ma vie. Ça a pris quelques minutes. Alors, ça n'a pas empêché les problèmes. Hein. Quelques semaines plus tard, la police a débarqué à l'école, est venue me prendre. Les parents ont été avertis, ça a coûté cher. J'ai été un peu... C'était pas très content. Bref, toutes ces choses ont eu lieu. Et ben, après, c'est redescendu, j'ai pu un peu souffler. Juste pour vous dire, la période d'attente qui a duré à peu près un mois, pendant laquelle je savais que la police allait débarquer, chaque fois que le téléphone sonnait, j'étais angoissé. Eh bien, ça m'a pris, je pense, plus de 10 ans jusqu'à ce que j'arrête d'avoir des angoisses quand le téléphone sonne. C'était complètement fou, quoi. C'était un état absolument épouvantable, quoi. Et voilà, j'avais fait ce pas, bah, les choses étaient passées, la tempête était derrière. C'est pas pour autant que les armes m'intéressaient plus, hein. Bon, j'avais dû tout jeter, mes parents ont exigé que je foute tout à la poubelle, mais ça m'intéressait quand même encore pas mal. C'était quand même là, quoi, au fond de moi. Alors bref, ben voilà, j'ai fini l'école, j'ai commencé mon apprentissage de la technique. Je suis électronicien réparateur radio-TV de base, enfin d'apprentissage. Et là, premier miracle, dans ma classe, il y avait un chrétien, un salutiste, un petit gars qui était là, et il parlait tout le temps de Dieu. Incroyable, et moi ça m'intéressait parce que j'avais dit à Dieu que je croyais en lui, quoi. Et j'avais décidé de dire, bon, hein, c'est pas parce que les choses étaient réglées que j'allais mettre tout ça de côté. C'était devenu très important pour moi, mais je comprenais rien. Et là, paf, dans ma classe, un gars qui me parle de Dieu. Et il me parlait de Dieu, c'était incroyable. En fait, lui, il n'avait jamais connu son père, et puis il me disait, ah ben Dieu, il a été un père pour moi. Quelque chose que je ne pouvais pas imaginer, alors je l'écoutais. Pendant 4 ans, je lui ai cassé les pieds. On mangeait tout le temps, hein, on mangeait dans les corridors, ce qu'on appelle tech à Saint-Imier, sur nos tréchauds à gaz, tout ça. Et pendant 4 ans, pendant les pauses, je le bombardais de questions. Mais le pauvre, je peux vous dire, il a souffert, quoi. Je voulais comprendre. On a lu la Bible, on a étudié, on a prié, et tout et tout. Et voilà, au bout de 4 ans, bon, enfin, pendant tout ce processus, il y a un moment donné, bah, pendant ce temps aussi, bah, j'ai rencontré aussi un groupe de jeunes où j'ai été invité. C'est là que j'ai rencontré mon épouse. Ça sert à ça, les groupes de jeunes, je dis toujours. C'est pas le but, mais ça sert à ça quand même. Et je suis entré dans une église. Et là, je découvrais, parce que je ne connaissais pas les églises. Oh, je voyais alors, les chrétiens, tout ça. Ouais, ah, c'est ça, être chrétien. Moi, je connaissais juste mon ami, mais dans un autre contexte, quoi. Et de plus en plus, au fond de moi, il y avait une petite voix qui disait, bah, voilà, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Qu'est-ce que tu vas faire avec ta foi? C'est quoi, à quoi tu sers? Et pour moi, ce n'était pas compliqué. Hein. Les choses, elles se résument, les choses d'habitude, à des choses très, très simples. C'était, je suis chrétien, donc je suis là pour servir Dieu. Et puis, basta, on verra la suite après, quoi. Et au fond de moi, je devais trouver ma place. Je devais trouver où je voulais m'engager au niveau de ma foi. Qu'est-ce que j'allais faire, quoi? Comment j'allais servir Dieu? Parce que le dimanche matin, pour moi, ce n'était pas suffisant. C'était impossible de me dire que je vais le dimanche matin, puis après j'oublie. Je devais servir, voilà, servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Alors, ben, le seul exemple que j'avais, c'était l'église. Alors, ben, je regardais ce que les chrétiens faisaient autour de moi. Alors, je me suis dit, ben, les chrétiens, tous... sans exception, ils font de la musique. Eh ouais! Alors je me suis dit, ben voilà, un chrétien, ben, ça fait de la musique, donc moi, pour servir Dieu, je dois faire de la musique. C'était pas une bonne idée. Donc j'ai essayé la guitare. Pff. Déjà, il faut dire une chose, hein, la musique, j'écoute quasiment jamais de musique, ça m'intéresse pas, c'est un truc bof, voilà, quoi. Et je devais vraiment me forcer, quoi. Donc essayer de chanter, oh, voilà. Faire de la musique, catastrophe, c'était moins dangereux quand je faisais des explosifs, quoi. Donc, la musique, ça n'allait pas. Je me suis dit, bon, bah, alors qu'est-ce qu'ils font les chrétiens? Alors j'ai regardé, ah, ben, y en a qui prêchent. Alors j'ai essayé un peu de prêche, et voilà. Pas terrible, quoi. C'était pas mon truc. Et alors, il y a un truc qui allait bien, par contre, c'était responsable de groupe de jeunes. Parce que ça, ben, on avait le groupe de jeunes, il avait un peu évolué. Rapidement, avec mon épouse, on est devenu responsable. Et ça se passait bien. Gérer une équipe, planifier des trucs. Ouais, ça, c'était pas trop, trop difficile. Ça, je le sentais bien, quoi. Hein, ça allait bien, quoi. Mais voilà, ça suffisait pas. Je me disais, ça reste quand même dans les murs de l'église. Ben voilà, il y a les 5 ou 6 jours qu'on passe à côté. Ma foi, il y a encore une lacune. Il faudrait aussi t'engager là. Et j'ai continué à chercher. Alors ça a duré pendant 4 ans. La fin de l'apprentissage, j'ai continué mes études d'ingénieur en électronique. Et pendant les 3 ans des études, 3 ans et demi, c'était vraiment cette question. Mais tu vas faire quoi, ta foi, quoi? Et je n'avais pas de réponse. Mais j'avais fait des essais. J'avais vu que ce n'était pas ma place, forcément. Les moyens classiques, en guillemets, ce n'était pas droit ça. Et je me suis dit, ben voilà, Dieu est tout puissant. Il m'a montré plein de fois des miracles, des choses comme ça. Ben, s'il y a une place pour moi, il va déjà me la montrer. Et là, ça m'a aidé. J'ai trouvé un peu une paix aussi à ce niveau-là. Je me suis dit, je reste vigilant. C'est exclu. Je ferme pas la porte. J'ouvre la porte, justement, et je laisse venir. Maintenant, c'est Dieu qui va... J'attends qu'il m'amène quelque chose, quoi. J'étais toujours responsable groupe de jeunes, tous ces trucs-là. Bien sûr, ça continuait. J'ai fini mes études. J'ai commencé à travailler dans l'industrie. Et là, c'était génial. J'étais payé pour m'amuser. C'est trop bien, hein. Être ingénieur, c'est fantastique, on invente des trucs. Et c'est là qu'un jour, en fait, tout m'a rattrapé. C'était une pause, j'étais avec un collègue, et j'ai un collègue qui parle des voyages qu'il avait fait. C'est un ancien hippie, il allait un peu fumer des trucs partout. Et il me raconte en fait un voyage qu'il a fait au Vietnam, et il me dit, ah, mais tout ça, dans le cadre de la discussion, c'est souvent lui qui parlait, quoi. C'était une fois, paf. Il dit, ah ben au Vietnam, en fait, ben, il y a toujours des mines, puis ils déminent, et puis je dis, attends, il y a toujours des mines, la guerre est finie. Il me dit, non, les mines, ben, elles ont placées pendant la guerre, et puis ben, elles sont toujours là, quoi. Une fois que la guerre est finie, ils ne savent plus où elles sont, et puis le Vietnam est fini depuis des dizaines d'années, ben, malgré ça, il y a toujours des mines. Je dis, ah tiens, ça c'est intéressant, puis en plus ça explose, waouh. Et puis il me dit, mais puis en plus, quand tu vois les démineurs travailler, ils sont à genoux, ils creusent, c'est long et c'est dangereux, je suis sûr qu'on pourrait faire mieux. Et il ne fallait pas qu'il me dise ça. Et là, plaf, ça s'est déclenché. Je me suis dit, là, c'est ma place. Il y a des trucs qui pètent, ça m'intéresse. Hein. Et il y a peut-être de la technologie à amener, quoi. Peut-être on peut faire quelque chose. Je me suis dit, ouh là 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 là, ça sent Dieu là derrière, je le sens venir, quoi. Et ça commence à travailler. Et pendant une année, je me suis renseigné. Alors les mines, moi je les connaissais quand j'étais gamin, hein, quand même. Et j'en fabriquais. Quand je faisais du camping sauvage, je mettais des mines autour de ma tente. comme tout le monde. Donc fabriquer les mines, faire exploser des trucs, ça ne me posait pas de problème. Mais je ne savais pas comment on les enlevait, et puis je ne connaissais pas l'impact humanitaire. Et c'est ce que j'ai fait. Pendant une année, en fait, ben, je me suis renseigné. Je me suis renseigné comment on démine. Et finalement, c'est quoi l'impact? Alors j'ai découvert ces milliers de victimes, j'ai découvert ces situations, j'ai découvert cette problématique où vous avez des démineurs. Un démineur, il est à genoux, il a une petite aiguille, il la plante dans le sol. Alors il va avec un détecteur de métal, mais les détecteurs de métaux, ben, les mines de plus en plus, elles ont quasiment plus de métal dedans. Donc le détecteur, il est tellement sensible qu'il trouve tout ce qu'il y a métallique dans le sol. Ils ne peuvent plus les utiliser, ils utilisent des aiguilles, ils piquent le sol. Les démineurs, ils font 5 à 10 mètres carrés par jour, en plein soleil. Un démineur, 5 à 10 mètres carrés par jour. Pour faire cette salle, il faut presque un mois de travail, la surface. Donc, bah peut-être pas un mois, mais en tout cas, une, deux semaines facilement. Quoi. Donc, c'est hyper lent et tout. On peut faire mieux quand même. Quoi. Et voilà, c'est ce que j'ai découvert pendant cette année. Et au bout d'une année, je participe, j'entends parler d'une conférence, tout près d'ici, à l'EPFL. C'est le professeur Jean-Daniel Nicou qui organise une conférence. Il avait fabriqué un petit robot pour envoyer dans les champs de mines. Oh, trop bien, quoi. Et là, je tombe sur ce truc. À Zurich, j'entends parler de ça. C'est vraiment pas le lieu, mais voilà. Bref, j'entends parler de ça à Zurich dans une fois. Je m'inscris à cette conférence. Paf, puis j'y vais sur deux jours. J'ai l'opportunité d'aller... Parce qu'il avait organisé justement une conférence internationale qui réunissait des démineurs, des militaires et aussi des scientifiques pour parler du thème autour aussi de son robot, mais de manière globale. Et pendant 2 jours, c'était incroyable, quoi. J'étais immergé dans le monde du déminage. Puis au bout de 2 jours, à la pause midi, professeur Nicou, il vient s'asseoir devant moi. Il me regarde, puis il me dit, monsieur Guerin, vous faites quoi ici? Je dis, quoi? Il dit, ouais, on a des scientifiques, on a des militaires, on a des démineurs, vous êtes le seul particulier dans cette conférence. Il y a du monde, hein? Vous faites quoi ici? Puis j'ai dit, bah, moi je suis ingénieur, et puis j'aimerais bien bosser dans ce domaine, quoi. Il dit, ben, ça tombe bien, moi, je suis en train de monter une équipe, ça vous dirait de travailler dans mon équipe? J'ai dit, ouais. C'est le genre de ouais qui fait que vous quittez votre travail, votre épouse quitte son travail et vous devez déménager dans le canton de Vaud. Dans le canton de Vaud! Pff. Bref, c'est quelques secondes qui changent votre vie, mais c'était incroyable. C'est comme, moi je dis toujours, hein, c'est comme vous êtes fan d'ACDC, tout le monde est fan d'ACDC, puis vous allez à un concert, puis d'un coup vous avez le chanteur qui vous dit « Ah, tu veux venir chanter dans mon groupe ?» C'est à peu près la même chose. Pour moi, c'était la même chose. Quoi. Peut-être pas ACDC, en fait, non. Et c'était, pour moi, c'était juste impossible, incroyable. Et voilà, paf, je travaille ici, à Écublan, pendant 2 ans. Et c'était juste fou. Je suis devenu responsable de l'équipe. En plus, c'était moi qui avais le plus petit diplôme. C'était moi qui étais responsable. C'était trop rigolo. Et j'ai pu aller au Cambodge. J'ai pu aller en Croatie. J'ai pu aller travailler avec des démineurs en Belgique aussi. On a travaillé sur des systèmes de détection de mines, tout ça. J'étais complètement immergé, quoi. Alors, au bout de 2 ans, malheureusement, le projet lui-même sur lequel on travaillait a dû être arrêté. Donc, il s'est arrêté. Moi, je suis retourné travailler dans l'industrie, dans le Jura bernois. Mais là, j'avais mis le doigt dans l'engrenage. C'était irréversible, quoi. Donc, en fait, je travaillais dans l'industrie à 90% et puis à 50% à côté. Ça fait pas 100, mais... Je me suis dit, là, je continue, quoi. Alors, je travaillais dans ma cave. Au début, je faisais de la résonance magnétique nucléaire, comme tout le monde, dans sa cave, pour détecter les mines. Et ça a duré pendant quelques mois, comme ça. Et un jour, un des démineurs que j'avais rencontré, cette fois-ci un démineur, que j'avais rencontré pendant cette période de 2 ans à l'EPFL, me recontacte, puis me dit, mais dis Fredo, là, parce que j'avais monté une petite équipe aussi d'autres ingénieurs pour travailler là-dessus, il me dit, mais dis Fredo, voilà, avec ton équipe, vous ne pourriez pas me développer, j'ai un besoin bien spécifique. On a des champs de mines, alors tu sais comment on travaille? Je dis oui, mais on a un problème, c'est la végétation. Ben voilà, un champ de mines, ce n'est pas un terrain de golf, hein, c'est que dans les films où c'est que vous voyez les démineurs dans des terrains de golf, parce qu'un champ de mines, par principe, ce n'est pas exploité et ça pousse. Il me dit, voilà, on est dans la zone de Sarajevo, on a de la végétation pas possible et certaines mines sont activées avec des fils. Ça, c'est des mines, on marche dessus, mais il y a certaines mines, en fait, c'est un fil qui est caché dans la végétation. Vous le coupez ou bien vous tirez dessus et ça vous pète à la figure et ça vous tue. Puis il me dit, voilà, Fredo, avant de chercher dans le sol, ça, on continue, on le fait à la méthode lente, mais on y arrive, mais il faudrait, tu pourrais pas me fabriquer une tondeuse à gazon blindée, télécommandée, qui puisse aller me couper la végétation dans les champs de mines, quoi. Il me dit, il faudrait un truc qui soit capable de couper des troncs comme ça, qu'on envoie, si ça pète, ma foi, même si c'est foutu, c'est pas grave, il n'y a personne dedans. Tu ne pourrais pas faire ça ?
Puis j'ai dit, ouais.
Alors là aussi, j'avais calculé mon coût, je me suis dit, 6 mois de travail, ouais, 6 mois, parce que c'est quand même compliqué. Et puis, 17 000 francs de budget. Bon, je suis ingénieur, je ne suis pas bon gestionnaire, d'accord ? Je suis ingénieur. Ça a pris 4 ans, et puis ça a coûté 250 000 francs. Bon, j'ai un peu dépassé le budget, hein, c'est comme les travaux publics, quoi. Mais on l'a fait. Quand j'ai dit oui, puis que je partais sur ce projet, ça me paraissait tout simple, un véhicule comme ça. Mais je ne connaissais rien, en fait. Moi, je suis ingénieur en électronique. Et j'avais aucune idée de la complexité du truc qui m'attendait. Mais c'était possible. Hein. Faire un truc comme ça avec un moteur dedans, c'est pas irréaliste quand même. Quoi. Et pour faire ce projet, en fait, j'ai trouvé des amis qui étaient agriculteurs, parce que les agriculteurs, ils savent souder, puis ils ont des remises où on peut aller les squatter pour faire le travail. Des amis mécaniciens ou bien ingénieurs en mécanique. Et voilà, on est parti là-dessus. Le projet a démarré comme ça. On a fait une première génération de machines. Elle a travaillé au Kosovo. Les démineurs nous ont demandé, mais on ne pourrait pas mettre un moteur plus gros, puis cette fois-ci creuser. On a dit, ouais, comme d'habitude, quoi. On a remis 3 ans, paf, dessus. Pendant ce temps, on a commencé d'être... les médias nous ont vus. On a gagné le prix d'Ottweiler. On a gagné le prix des ingénieurs. Ça a commencé à se faire connaître. On a commencé à recevoir un petit peu des sous. On a appelé, on avait des donateurs. Le groupe de donateurs, des particuliers, commençait à grandir. On a commencé à avoir de l'argent. Un premier salarié, deuxième salarié, j'étais le troisième. Et ça a commencé à prendre l'ampleur comme ça. Et voilà, ça a fait comme ça. On en est là maintenant. La machine que vous avez vue là, c'est la 4e génération. Alors juste une machine comme ça, parce que je ne sais pas combien de temps il me reste. J'ai oublié de regarder ma montre au début. 5 minutes, 10 minutes, 5, 5, ça joue encore 5. Merci. Je suis toujours trop lent, moi, je ne peux pas faire court. Hein. Et juste pour dire, les machines actuelles qu'on fabrique, c'est des machines, je vous ai dit, un démineur, il fait 5 à 10 mètres carrés par jour avec son aiguille. Une machine, elle fait 1000 à 1500 mètres carrés par heure. C'est un peu plus costaud quand même, quoi. C'est ça qu'on fabrique. Et actuellement, on a la machine que vous avez vue là, les quelques images qu'on voyait, c'est en fait pendant une certification. Donc, on a déjà travaillé dans 13 pays. Hein, donc, on commence à être, ça commence à fonctionner en termes techniques. C'est assez abouti, quoi. Ça, c'était une certification qu'on a fait en Suède. La dernière génération de machines qu'on a, je crois que je peux le dire sans trop me prendre la tête, c'est la meilleure au monde, quoi, actuellement. On a des concurrents. Hein, y a des boîtes, des grosses boîtes. Nous, on est des tout petits rigolos comparés. En comparaison, mais la machine qu'on a là, c'est la plus aboutie au monde. Et un truc de fou aussi, c'est dans la région du Jura bernois, les gens, c'est un peu spécial quand même d'avoir une équipe qui font du déminage quand même. On est un peu connu quand même, quoi. Et on a un soutien de la population qui est juste fou, quoi. Et on a des entreprises qui nous aident. Ils nous mettent, par exemple, on a une entreprise, c'est une patronne, c'est aussi une chrétienne. Elle nous met son entreprise à disposition la nuit. Alors on peut, elle nous laisse ses machines, puis nous on va travailler la nuit comme ça. Et ce qui fait que, grâce aux machines qu'on a, on n'a pas dû investir, hein, typiquement des systèmes à découpe laser, des trucs qui valent des fortunes, cette machine, on arrive à la produire au prix le plus bas du marché. Une machine, comme vous avez vu là, ça coûte le prix d'un bon tracteur agricole, 300 000 euros à peu près, mais c'est rien. C'est la machine la moins chère au monde, de sa catégorie, et probablement la meilleure, quoi. On en est là, à l'heure actuelle, quoi. Et ça s'est pas fait comme ça, hein. Ça s'est construit, c'est à coup de miracle. On est parti avec 2 pains, 5 poissons, puis un peu des idées derrière la tête, rien du tout, quoi. Et à l'heure actuelle, on a ça d'un côté, puis je vais conclure là-dessus. Quand je vous ai dit que pour moi c'était un encouragement de pouvoir venir ici, notamment ce qu'on a pu chanter et puis de vivre ce temps, c'est que ça m'a rappelé à quel point Dieu est fidèle. Actuellement, il y a un autre aspect qui est, comme je vous disais, hein, quand je dois aller parler quelque part, généralement, c'est que la situation va être rude. Mais en fait, Diguer, on est la fondation Diguer. Elle n'est pas du tout basée sur une fortune. On n'est pas basé sur une grosse entité qui est derrière et qui injecte de l'argent. Il n'y a rien. Il y a 2000 donateurs privés, des gens qui donnent 50 francs, 100 francs, dans toute la Suisse romande, Suisse allemande. On a aussi de temps en temps des projets qui sont financés par la DDC ou comme ça. Mais il n'y a pas un gros machin derrière. Et actuellement, la Fondation Diguer, c'est complètement fou. On a certainement la meilleure machine au monde, mais ça, c'est les chiffres qui parlent. Hein. Ce n'est pas moi, parce que je suis un très mauvais vendeur, mais les chiffres des résultats. On a la machine la moins chère au monde. J'ai 4 mois et demi de salaire non payé. j'ai 250 000 francs de factures ouvertes. Je ne sais pas si je finis l'année. Et ça, c'est Digger. C'est tout le temps comme ça. Chaque fois que je vais quelque part, parler dans une église, je me retrouve dans une situation comme ça. Je me dis, mais c'est incroyable, quoi. Mais chaque fois, je me retrouve encouragé. Parce que c'est... Ouf, puis chaque fois, ça passe. Chaque fois, ça passe. Alors, je vous lis juste un passage que mon épouse avait reçu quasiment au début du projet. J'espère que j'y arrive parce que c'est écrit petit et puis je ne vois bientôt plus rien. C'est dans Ésaïe 41:15. Elle cherchait un passage et elle s'est trompée de passage. Et le passage qu'elle avait reçu, c'est devenu pour moi un peu la chose à laquelle je me raccroche quand je ne vois plus de... Actuellement, je ne sais pas où on va. Mais quand je ne sais plus où je vais, ben je me raccroche là-dessus. Ben, c'était un petit peu le passage du début, quoi. Et je vais essayer de le lire. Oh là 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 là. Il y a quelqu'un qui a des bons yeux et qui arriverait à me lire. Ah, vous avez un truc... Ah ouf, ça c'est sympa. Je vais y arriver, ça marche. Merci mille fois. Alors justement, comme je vous disais, mon épouse est tombée dessus un peu par hasard. Mais ça, c'est fou, quoi. Je vais faire de toi un traîneau de battage tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broieras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la balle de blé. Tu les secoueras et le vent les emportera, un tourbillon les dispersera, mais toi, tu trouveras ta joie dans l'Éternel. Tu feras ton sujet de fierté du Saint d'Israël. Et la suite, c'est complètement fou. N'oubliez pas le contexte dans lequel on travaille. Les plus humbles et les plus pauvres chercheront de l'eau, mais il n'y en a pas. Et leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je répondrai à leurs prières. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des sources sur les collines, des fleurs sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en cours d'eau. Il y a encore un petit passage, puis à la fin, c'est marqué « Afin que le monde voie, afin que le monde comprenne et réalise que je suis l'artisan et l'auteur de ces grands changements. » Voilà. C'est là-dessus que je m'appuie. Quand je ne vois plus là où on va, ben je reprends ça et puis ça me fait du bien. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. C'était un immense plaisir d'être ici.
Un immense merci à Frédéric. Des témoignages de ce genre, on en a vraiment besoin. Dieu est à l'œuvre, Dieu nous parle. Et il nous utilise, non pas dans des domaines qui nous paraissent difficiles, mais dans nos domaines d'excellence. Même s'ils sont bizarres, même s'ils n'ont pas l'air d'être en lien. Merci Seigneur. Et nous voulons te prier, Seigneur, pour cette entreprise, pour tous les gens que tu peux sauver, les gens qui pourront de nouveau travailler, qui pourront de nouveau chercher de l'eau, qui n'auront plus peur d'envoyer leurs enfants pour les revoir mutilés. Merci Seigneur parce que tu as des ouvriers qui utilisent leur intelligence que tu leur as donnée, qui utilisent leurs moyens pour pouvoir ramener un peu de paix de ce monde déchiré. Seigneur, nous te demandons de bénir l'entreprise Digger et tous ceux qui y travaillent, qu'ils puissent encore être entourés de gens qui ainsi libèrent les terres de ce terrible malheur. Merci Seigneur. Amen. Et maintenant, j'appelle Eric pour nous faire participer au repas du Seigneur.